de la nation iranienne. J'ai entendu le message de votre révolution, peuple d'Iran. J'avais vu moi aussi, de ma fenêtre, la fumée des émeutes, entendu les cris et les bruits de vitrines brisées sur l'avenue Hafez, vu des dizaines de jeunes hommes courir dans mon impasse. Cherchaient-ils un bar ou un restaurant au nom occidental à attaquer? Les consignes de l'ambassade étaient claires, il fallait rester chez soi, attendre la fin de l'orage. Azra était inquiète, elle ne tenait pas en place. Elle avait peur pour Lyautey. Elle l'avait perdu de vue au cours d'une manifestation 3 jours plus tôt. Elle n'avait plus de nouvelles. Elle l'avait appelé 1000 fois, était passée chez lui, était allée à l'université de Téhéran malgré l'interdiction de ses parents pour le trouver. Sans succès. Elle était terriblement anxieuse et la seule personne qu'elle connaissait de ses amis français, c'était moi. L'évocation d'Azra et de la révolution donnait à Morgan un air un peu alarmant. Sa passion était devenue froide. Son visage restait impassible, immergé dans le souvenir. Il regardait son verre en parlant, il le serrait à deux mains, calice profane de la mémoire. Sarah montrait des signes de gêne, d'ennui peut-être, voire des deux. Elle croisait et décroisait les jambes, tapotait le bras de son fauteuil en osier, jouait machinalement avec une sucrerie avant de finir par la reposer. Sans l'ingérer, dans sa soutasse de verre. C'était la première fois que nous parlions de Lyautey. D'habitude, Azra évitait le sujet par pudeur, moi par jalousie. Il faut que je le reconnaisse. Je n'avais aucune envie de m'intéresser au sort de ce fou. Il m'avait volé l'objet de ma passion. Il pouvait bien se trouver au diable, ça m'était absolument égal. Azra était chez moi, cela suffisait à mon bonheur. Je comptais bien en profiter le plus longtemps possible. Je lui ai donc dit qu'il était fort probable que Lyautey appelle ou qu'il passe chez moi sans prévenir, comme à son habitude, ce qui était bien évidemment un mensonge. Elle est restée une grande partie de la journée. Elle a rassuré ses parents par téléphone, leur disant qu'elle se trouvait en sécurité chez une amie. Nous regardions la télévision en écoutant la BBC en même temps. Nous entendions les cris, les sirènes dans la rue. Parfois, il nous semblait percevoir des coups de feu. On voyait la fumée s'élever au-dessus de la ville. Assis tous les deux sur le sofa. Je me rappelle jusqu'aux couleurs de ce canapé. Le moment me poursuit depuis des années. La violence de ce moment. La douceur de ce moment. Le parfum d'Azra sur mes mains. Sarah en laissa tomber sa tasse. L'objet rebondit, roula jusque dans l'herbe sans se briser. Elle se leva de sa chaise pour la ramasser. Morgan détailla longuement ses jambes, puis ses hanches, sans chercher à se dissimuler. Sarah ne se rasseyait pas. Elle restait debout dans le jardin à regarder l'étrange façade biscornue de la villa. Morgan chassa de nouveau les mésanges d'un revers de la main et se resservit, sans glace cette fois-ci. Il marmonna quelque chose en persan, des vers d'un poème sans doute, il me sembla apercevoir une rime. Sarah s'était mise à arpenter la petite propriété. Elle observait chaque rosier, chaque grenadier, chaque cerisier du Japon. J'imaginais ses pensées, sa gêne, sa douleur même d'entendre la confession de son maître. Morgan ne parlait pour personne. La vodka faisait son effet. J'imaginais que d'ici peu, il se mettrait à pleurer des larmes d'ivrogne, s'apitoyant définitivement sur son sort. Je n'étais pas sûr d'avoir envie de l'écouter jusqu'au bout. Mais avant que Sarah ne revienne et ne me donne l'occasion de me lever à mon tour, Morgan reprit son histoire, d'une voix toujours plus profonde et essoufflée. Avouez que la tentation était trop forte.